en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 3 octobre 2008 s'est déroulé le colloque international consacré à Paul Pelliot 1878-1945 de l'histoire à la légende. Le colloque a été organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et le Collège de France et dans ce cadre, ont pris la parole l'après-midi du 3 octobre 2008 Jean-François Jarige de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Jean Gernet, également membre de l'Institut, et Michel Tardieu du Collège de France. Canal Académie vous propose d'écouter successivement ces trois communications. Vous entendrez donc dans l'ordre Jean-François Jarige, Paul Pelliot et le musée Guimet, Jacques Gernet, Paul Pelliot, sinologue et bibliographe, et Michel Tardieu, les chrétiens d'Orient dans l'œuvre de Paul Pelliot. Retrouvons Jean-François Jarige en grande salle des séances.
Je voudrais simplement apporter, non pas une contribution, mais rendre un hommage à Paul Pelliot et à sa contribution à l'histoire du musée Guimet, un musée que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 22 ans. On connaît surtout l'apport considérable aux collections du musée Guimet des pièces rapportées par Paul Pelliot lors de sa grande mission en Asie centrale. Mais il convient aussi, on le souligne moins, de rappeler que le musée Guimet peut s'enorgueillir de posséder de remarquables séries de peintures liturgiques qui illustrent le panthéon du jeûne, de l'eau et de la terre, un grand rituel de salut des âmes qui réunissait suspendues autour d'une aire sacrée les divinités suprêmes et par ordre décroissant en importance toutes les divinités et génies de la nature, comme l'a bien indiqué dans une étude faite en 88 Caroline Gies-Vermand, encouragée par Christopher Schipper. La série la plus ancienne, 35 rouleaux à peu près, dont que nous avons pu augmenter plus récemment de 2 rouleaux, achetés grâce à l'antiquaire Mauro Gobard, est datée de la 5e année du règne de l'empereur Qintai, c'est-à-dire 1454. Une deuxième série comporte 75 rouleaux et une dernière 7 rouleaux, dont je reparlerai un peu plus tard. Ces peintures ont été prises, d'après les fiches, prises par Pelliot, attaché de l'Institut archéologique d'Extrême-Orient, après la délivrance et légation à Pékin en 1901, déposée par les Féaux au musée du Louvre en avril 1904. Ces peintures liturgiques ont longtemps été considérées comme ayant un intérêt surtout d'iconographie religieuse pour illustrer le syncrétisme entre le bouddhisme et le taoïsme. Et c'est pour ça que Gaston Mijon a accepté bien volontiers, à la demande de Joseph Aquin et de Paul Pelliot lui-même, de les transférer au musée Guimet par un arrêté ministériel daté de septembre 1922. Nous verrons que notre regard a aujourd'hui changé et ces peintures, surtout celles de la série A, sont considérées comme représentant un ensemble exceptionnel, donc que nous avons pu compléter, et pas autant que nous l'aurions souhaité, car l'envolée des prix nous a fait rater une des pièces majeures de cette série. C'est donc un enrichissement extrêmement important de l'histoire du musée, mais lié à la première mission de recherche de documents et d'ouvrages de Paul Pelliot à Pékin au début du XXe siècle. Pour en revenir à l'Asie centrale, rappelons que la France était très engagée dans ce qu'on appelle l'ancienne Indochine, la découverte d'Angkor, alors que déjà les Allemands, les Britanniques, les Japonais avaient lancé des expéditions dans cette Asie centrale qui révélaient des collections tout à fait nouvelles et considérées comme exceptionnelles. La France devait faire quelque chose et Émile Sénard de notre académie a confié, mais vous le savez tous, je le rappelle pour les non-spécialistes, le soin de monter une expédition française qui se déroula de 1906 à 1909. À côté de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences et plusieurs autres institutions, le Muséum d'histoire naturelle, la Société de géographie, ont soutenu ce projet auquel donc le musée Guimet n'a pas été directement associé dans sa première phase. Cette mission a quitté, comme l'a rappelé notre secrétaire perpétuel, a quitté Paris le 15 juin 1906 et arrive à la fin octobre à Tumchuk et ce sont les fouilles en novembre 1906 qui permettent de découvrir des ensembles de terres séchées du certain du 4e, 5e, 6e et 7e siècle qui, nous le verrons, constituent maintenant aujourd'hui des enrichissements majeurs du musée Guimet. Paul Pelliot continue sa route et atteint en 1908 les grottes de Dounouan qui avaient été visitées auparavant par Orelstein et le 3 mars 1908, Wang va lui ouvrir la fameuse grotte. Vous avez ici une vue de ces photos prises par Charles Nouette qui vous montre les grottes à proximité de Dounhuang et ces grottes qui datent des Wei, des Sui, des Tang. Et je signale que dans quelques semaines, le centre culturel chinois à Paris va rouvrir et va présenter, je ne crois pas que ce soit cette grotte, mais deux autres grottes, la reconstitution de deux grottes de ce type, c'est tout à fait spectaculaire. Et le musée Guimet en profitera pour faire une présentation spéciale des collections Pelliot en hommage à Paul Pelliot. Donc, Paul Pelliot va passer 3 semaines, étudiant au début, il le rappelle, 1000 rouleaux par jour. Notre secrétaire perpétuel a rappelé sa connaissance extraordinaire de nombreuses langues qui lui ont permis très rapidement de continuer cet inventaire. Il fête ses 30 ans dans la fameuse grotte que vous avez sur la gauche, cliché bien connu, et il trouve au milieu de ses peintures ses rouleaux dont tous pratiquement sont antérieurs à la fin du XIe siècle, ce qui lui permet de dire que cette librairie cachée et dans laquelle Orelstein a déjà puisé des manuscrits et des rouleaux peints, a été sans doute fermée à partir de cette époque. Et on peut imaginer l'émotion de Paul Pelliot découvrant, passionné évidemment par les manuscrits, les textes, mais découvrant ces peintures dont ces moines itinérants, dont l'on identifie, évidemment sans aucune preuve, aux pèlerins célèbres comme Yuan Sang, dont les récits ont servi de véritable Bible aussi bien à Orelstein qu'à Paul Pelliot. Puis, début octobre 1908, c'est le retour à Pékin. De retour en France, Paul Pelliot va déposer tout un ensemble de manuscrits, d'estampages et d'imprimés à la Bibliothèque nationale. Et Madame Nathalie Monet, hier, nous a expliqué le processus de dépôt, toutes les polémiques et toutes l'histoire étonnante qui ont marqué ce dépôt qui constitue pourtant un des plus grands enrichissements de l'histoire de la Bibliothèque nationale. Du côté des rouleaux peints et des objets archéologiques, Paul Pelliot les dépose au Louvre, rouleaux peints et les objets archéologiques, nous avons vu par exemple comme les terres séchées de Tumchuk, et une sélection de ses œuvres est alors présentée dans une salle portant le nom de Paul Pelliot, dont l'inauguration se déroula le 12 mars 1910. Et on a souvent parlé de la question de savoir quel était l'intérêt de Paul Pelliot pour l'histoire de l'art. Alain Toth a fait une communication ce matin à ce sujet. Mais lorsque, vous savez que par la suite, Paul Pelliot s'est surtout intéressé aux études historiques, philologiques, mais quand on voit les peintures qu'il a su choisir, on a le sentiment que Paul Pelliot avait véritablement un œil. Émile Guimet, soucieux de voir son musée accorder une plus grande place aux nouvelles données fournies par des expéditions scientifiques françaises en Asie, demanda immédiatement, pratiquement, et obtint rapidement le dépôt de peinture de la mission Pelliot. Nous avons une lettre du 13 juin 1913 indiquant que le sous-secrétaire d'État des Beaux-Arts, à la demande de Paul Pelliot, obtient du directeur des musées de France et des musées nationaux et de l'école du Louvre de mettre en dépôt au musée Guimet 15 peintures contre-collées, contre-toiles, provenant du Turkestan chinois. Avec cette première exposition d'œuvres de la mission Pelliot, avant le début de la Première Guerre mondiale, commence une étroite relation avec le musée Guimet et Paul Pelliot qui va contribuer à changer l'orientation de ce musée, d'abord orienté vers l'histoire des religions et qui va s'ouvrir de plus en plus à l'histoire des civilisations. Donc vous voyez là des peintures qui ont fait partie de ces premiers envois exposés au Louvre, puis au musée Guimet. Voici Émile Guimet, donc, et 3 des peintures qui ont fait partie de la première exposition au musée Guimet, organisé par Émile Guimet et Paul Pelliot, dont la célèbre peinture montrant l'assaut de Marat est datée de la première moitié du Xe siècle, donc envoyée à cette occasion, tout comme deux autres peintures, l'Aquilino mille bras et le Dizang, enfin, Kshiti Garba, qui font donc partie de ce premier envoi, un décret signé du président Poincaré le 3 juillet 1913. Cette relation va se renforcer encore avec l'arrivée à la tête du musée Guimet, effective dès le début des années 20, de Joseph Aquin, qui sera nommé directeur en 23, mais Joseph Aquin qui va reprendre d'ailleurs un peu le flambeau de Pelliot en lançant à son tour, dans la suite de Fouché, et encore à l'initiative d'Émile Sénard de notre académie, les grandes expéditions d'Afghanistan. Joseph Aquin, aidé d'ailleurs par René Grousset, veut transformer le musée Guimet en un grand musée des civilisations d'Asie, dans lequel les itinéraires de la route de la soie, dont Paul Pelliot a été un des grands pionniers, étaient appelés à jouer un rôle majeur. Aquin obtient de Gaston Mijon, conservateur du département des arts asiatiques du Louvre, le dépôt de tout ce qui n'était pas exposé au Louvre, soit 40 peintures et pratiquement tous les objets archéologiques non exposés, dont ces têtes en terre séchée de Toumchouk et d'autres sites. Et nous avons une lettre de Gaston Mijon qui dit « Je viens de recevoir le reliquat des peintures Pelliot, remonté par Isaac, que nous avons tenu en réserve en dehors de celles qui garnissent notre salle. » En dehors des 4 que je vais pouvoir faire encadrer et ajouter à notre série, je vais vous remettre tout le reste, de sorte qu'en dehors des objets exposés, nous n'aurons plus rien de conservé dans notre réserve de la mission Pelliot et vous aurez l'intégralité de cette collection. Donc j'ai préparé toutes ces peintures dans des chemises de papier quand elles ne sont pas trop grandes ou j'ai roulé les grandes et j'ai tout remonté dans mon cabinet. Veuillez donc venir avec un homme de main dans mon cabinet le jeudi 23 entre 1h15 et 2h15. Vous n'aurez qu'à prendre des rouleaux sous votre bras et même vous pourrez prendre le tramway. Voilà, c'est la façon dont on transportait les œuvres d'art, c'était finalement efficace. C'est donc à ce moment-là que le musée Guimet va pouvoir présenter les peintures et les rouleaux peints et les objets de la mission Pelliot dans des salles qui seront enrichies encore plus après 1945, après le décret du transfert des collections asiatiques du musée du Louvre vers le musée Guimet. Et nous aurons, à partir de ce moment-là, au musée Guimet, réuni toute cette collection. Et dans ses travaux, donc avant sa mort en 1945, Paul Pelliot, qui a beaucoup avait des liens avec Joseph Aquin et qui habitait d'ailleurs au musée d'Henry, a laissé le soin au musée de s'occuper des aspects d'histoire de collection. Et donc, après sa mort, ce fonds Pelliot constitue un ensemble très important au musée Guimet, qui sera étudié par Nicole Vandier-Nicolas, Louis Ambis, avec le concours au musée Guimet de Madeleine Allade, puis de Robert Girard-Bézard et son épouse Monique Maillard. Et Louis Ambis et ses collaborateurs du Collège de France et du musée Guimet vont donc publier, à partir de 1961-1976, les 16 volumes de la mission Pelliot, documents conservés au musée Guimet et à la Bibliothèque nationale. En 1976, c'est le musée Guimet et un de ses conservateurs, Gilles Béguin, qui contribue à organiser au Grand Palais l'exposition « La route de la soie, les arts de l'Asie centrale ancienne » dans les collections publiques françaises. Toutefois, il faut reconnaître que le musée restait encore attaché un peu à des critères de qualité artistique et que parfois l'art de Dunhuang et de l'Asie centrale était considéré un peu comme un art hybride et qu'il a fallu que petit à petit notre regard change pour réaliser que nous étions en présence de véritables chefs-d'œuvre de la peinture. Certaines de ces bannières, qui sont parfois des ex-voto, d'autres de grandes offrandes, peuvent être l'œuvre d'artistes de qualité différente, mais il existe des peintures absolument exceptionnelles. Donc tout un travail va être fait au musée Guimet pour commencer à restaurer ces peintures. Je signalerai aussi et étudier les textiles, le travail remarquable accompli par Krishna Ribou sur ces textiles de la mission Pelliu. Et les Japonais, qui attachent évidemment beaucoup d'importance à ce fonds, vont encourager mon prédécesseur, Vadim Eliseev, à mener une campagne photographique et à prévoir la publication de ses collections. Et c'est un correspondant de notre académie, M. Terakazu Akiyama, le professeur Akiyama, qui va jouer un rôle important dans la mise en œuvre d'une opération franco-japonaise. Et c'est ainsi qu'un ouvrage monumental va pouvoir être publié, « Les arts de l'Asie centrale, la collection Paul Pelliu du Musée national des arts asiatiques Guimet », publié par Kodansha en 1994 et en français par la Réunion des musées nationaux en 1995. Donc tout un ensemble de savants, l'équipe du professeur Soimier avec certains de ses collaborateurs, dont Jean-Pierre Drège, l'organisateur de ce colloque, vont travailler à cette publication majeure. Et c'est Jacques Giès qui, avec aussi pour le travail de classement et de réorganisation de ses peintures, l'aide de l'Orfeugère et l'aide aussi notre archiviste chargé de la section japonaise, Keiko Moto, vont, à l'occasion de cette publication, entreprendre des travaux de restauration des œuvres et de redécouverte de peintures majeures dont certaines étaient un peu restées dans les caisses lors des transferts d'un endroit à l'autre, que ce soit par tramway ou par d'autres moyens de transport. Et Jacques Giès, qui est le coordinateur du côté français, aura le mérite d'entreprendre une analyse du langage pictural, des peintures de Lu Nuang en particulier, et avec la collaboration du Laboratoire des musées de France, une étude des colorants, des pigments colorés, qui fait véritablement entrer ces œuvres dans un domaine de l'histoire de l'art et permet de prendre conscience de leur qualité tout à fait remarquable dans l'histoire de la peinture d'Asie centrale et d'Asie en général. Et c'est ainsi que une importante campagne de restauration a pu être entreprise. Les deux volumes ont été donc publiés et en 95, une exposition au Grand Palais, organisée avec comme commissaire Jacques Giès et Madame Monique Cohen de la Bibliothèque nationale, a permis de replacer l'ensemble de ces objets Pelliu dans un contexte d'une grande exposition internationale. Et ce qui est marqué aussi toute cette période, c'est aussi la redécouverte, le travail sur toutes les collections. Voilà la fameuse série B, donc je vous avais parlé de la série A, de ces peintures liturgiques, qu'on datait du 19e siècle, et une découverte du chercheur Stephen Little qui a trouvé une inscription, permet de les dater de 1600, et nous venons d'en acheter une récemment. Et de ces peintures, il y en a 70 de cette série et une autre série. Ces peintures, tout à fait passionnantes, sont en cours de restauration. Beaucoup étaient en très mauvais état et figureront, ces peintures apportées par Pelliu, dans la grande exposition prévue pour 2010 qu'organise Catherine Delacour avec l'aide de Jacques Giès sur le taoïsme au Grand Palais. Ce qui montre, au fond, que ces œuvres, collections apportées par Pelliu, ont loin d'avoir tout dit. Signalons enfin que la rénovation du musée Guimet a permis à la collection Pelliu de donner tout son sens à ce musée. Ce musée construit, comme l'avait voulu Aquin, autour des grands itinéraires de la route de la soie. Les circonstances des anciennes présentations faisaient que les collections Pelliu, les peintures, les bannières se trouvaient à côté de la salle Japon, les objets archéologiques pas très loin de la famille verte de céramique. Donc, nous avons pu, là, dans le musée Guimet, tel qu'il est conçu, montrer combien les collections apportées du Turkestan, ce qu'on appelait le Turkestan chinois à l'époque, sont vraiment un jalon essentiel pour permettre de comprendre la diffusion des concepts artistiques, philosophiques, de la pensée indienne vers la Chine, la contribution aussi originale de ces régions. Et ces terres séchées de Tumshu, que vous avez vues tout à l'heure, sont là présentées dans une présentation qui a permis de leur redonner une plus grande crédibilité archéologique. On a pu les recomposer un peu plus fidèlement grâce aux notes même de Paul Pelliu. Et vous voyez les présentations où la coupole de Kakrak en Afghanistan, ce n'est pas sans rapport avec les grands mandalas qui se trouvent dans la salle suivante, le Tumshuk, l'Asie centrale, les autres sites et la Chine. Nous avons là un circuit qui nous mène à cette salle tout noire où on a sur le côté la photo de Paul Pelliu dans sa fameuse librairie cachée, avec les objets rapportés par Pelliot, une rénovation pour laquelle d'ailleurs notre correspondant étranger, Ikuo Hirayama, nous avait fait un don de près de 10 millions de francs à l'époque, qui montre l'attachement du Japon, l'attachement de notre académie, puisque c'est un membre de notre académie, à l'œuvre de Paul Pelliot. Je terminerai en rendant un dernier hommage à Paul Pelliot avec cette magnifique peinture de Kuan-yin, Bodhisattva Kuan-yin, montrant le chemin à la dame Xiao, et en indiquant que notre musée est resté très actif dans le domaine des études concernant Paul Pelliot grâce à un don de la Fondation Mellon, un don de 750 000 euros. Toutes les archives photographiques, les archives de Pelliot, les photos, les collections ont été numérisées. Et si aujourd'hui, il devient facile d'avoir accès à toutes ces archives, c'est grâce à tout le travail qui a été fait avec Francis Macouin, le conservateur de la Bibliothèque et des Archives, Jérôme Guéquière et de responsable des archives photographiques et ses collaborateurs. Vous avez indiqué la publication du fameux carnet de route de Paul Pelliot et actuellement, grâce à une aide européenne, le projet de Dunhuang International, l'International Dunhuang Project, avec la BNF, Guimet, la British Library, Berlin, Budapest, va permettre très prochainement de mettre toutes les données de Pelliot sur un site internet accessible gratuit. Et les campagnes de restauration continuent. Donc aujourd'hui, le Fonds Pelliot, j'espère, vous apparaîtra comme étant en bonne main et que la collaboration, par exemple, de l'Institut pour la publication, la Fondation Cora pour le carnet de route, montre que l'engagement, nous sommes tous fidèles à l'œuvre de Paul Pelliot, dont la richesse est loin d'avoir été totalement exploitée et qui est vraiment un moteur pour les études sur l'Asie centrale et qui, pour le musée Guimet, a constitué un élément sans lequel le musée Guimet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je vous remercie.
Après la communication de Jean-François Jarige, Paul Pelliot et le musée Guimet, Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Jacques Gernet, membre de l'Institut. Paul Pelliot, sinologue et bibliographe. Retrouvons Jacques Gernet.
Les travaux de bibliographie chinoise de Pelliot occupent une grande place dans son œuvre sinologique. Il porte sur les sujets les plus divers et forme une masse redoutable de notes érudites. Les passer en revue, comme il m'avait été proposé, en si peu de temps, était une gageure. J'ai donc choisi de me limiter à l'un d'entre eux, un sinologue américain, Thomas Francis Carter, avait consacré à l'histoire de l'imprimerie chinoise un livre qui fut le premier sur ce sujet dans une langue occidentale. The Invention of Printing in China and its Spread Westward, paru en 1925, quelques semaines avant sa mort. L'auteur aurait souhaité poursuivre ses recherches, et les éditeurs, pensant à une réédition, s'adressèrent à Pelliot. En 1953, Paul de Mieville, savant sans égal dans l'histoire de notre académie, réunit dans un fascicule, avec l'aide d'un de ses amis, les notes que Pelliot avait préparées pour cette réédition. Carter était bien loin d'avoir la maîtrise des textes et de la bibliographie chinoise que possédait Pelliot. Et à travers la critique qu'il fait de ses approximations et de ses erreurs, Pelliot a apporté parfois des précisions importantes. Son exceptionnelle mémoire était célèbre. « Autant qu'il m'en souvienne, écrit-il quelque part. » Yuan Guisheng est le premier dans son « Chayuke Hua » 6-8 versos à avoir attiré l'attention sur un texte de la collection « Sekong » Piaosheng Wenji, où il est question de l'imprimerie. Et il y a tant d'œuvres et de collection de ce genre dans la littérature chinoise qu'il serait difficile de trouver un sinologue qui les connaisse ou qui les connusse et qui susse même qui était Yuan Guisheng. Comme la plupart des notes de Pellio sont de ce genre et qu'il me fallait dire à mes auditeurs des choses qu'ils leur soient compréhensibles, je n'ai retenu dans les 120 pages où Pellio déploie sa prodigieuse érudition à propos de l'imprimerie chinoise que ce qui concernait directement ce sujet. Grâce à elle, on peut retracer les grandes lignes de l'histoire de l'imprimerie chinoise telle qu'elle a fini par s'imposer. Après Carter, Pellio n'est pas seul à employer ce mot d'imprimerie. Il est commode et inexact. Avec le sens que nous lui donnons depuis Gutenberg, il ne peut pas s'appliquer à la Chine, qui ignorait la vis sans fin et le pressoir à vis. Et si la Chine a eu recours au caractère mobile, ils n'y ont pas eu de succès durable en raison du trop grand nombre de signes de l'écriture chinoise. Leurs seules réussites ont été les grandes éditions coréennes commencées en 1403, 50 ans avant Gutenberg, où furent fondus 100 000 caractères chinois. Plutôt que d'imprimerie, il s'agit des procédés artisanaux qui ont permis à la Chine de reproduire de façon fidèle et relativement rapide non seulement l'écrit, mais le dessin, 6 siècles avant Gutenberg, environ. Ces procédés se sont transmis presque aussitôt aux voisins de la Chine, dont les élites avaient jadis recours au chinois écrit comme langue savante. Dès le VIe siècle, les Chinois possédaient les deux techniques qui devaient un jour suggérer la reproduction du livre. Mais il fallut attendre pour cela près de 3 siècles. Comme dans d'autres civilisations anciennes, le sceau, tel qu'on le connaissait en Chine au deuxième millénaire, était gravé en caractère inversé et en creux et imprimé sur des matières molles. Or, Pellio avait remarqué qu'après les environs de 500 de notre ère, les sceaux commencèrent à être gravés non plus en creux, mais en relief, et qu'ils purent alors être imprimés sur papier, ce qui avait échappé à Carter. Pellio estime que ce nouveau sceau suggérera l'idée de la reproduction du dessin et de l'écrit. Mais pourquoi ce changement? On pourrait, je crois, invoquer la foi bouddhique qui était alors intense à cette époque, en recommandant instamment comme œuvre pieuse la multiplication des images de Bouddha et de Bodhisattva et la copie de ces textes religieux. Le bouddhisme semble avoir incité très efficacement à la reproduction de l'écrit et du dessin. L'autre technique, l'estampage, présentait l'avantage décisif de permettre de transposer aisément en inverse de grands textes qui étaient gravés en direct et qu'il aurait fallu de longs et pénibles efforts à inverser. Il consistait, comme le rappelle Pellio, à faire pénétrer dans chaque interstice d'une stèle une feuille de papier humide qui se prêtait à cette opération et qui, une fois sèche, pouvait être enduite sur l'autre face en vue de quelques copies de cette encre noire indélébile dont les Chinois se servaient. Les notes de Pellio permettent d'imaginer la suite des opérations nécessaires à la fabrication du livre. Un bon copiste copiait les textes ou un peintre les illustrations à reproduire sur une feuille de papier transparent et qui ne buvait pas l'encre. Un graveur disposait ensuite à l'envers cette feuille de la longueur de 2 pages sur du bois tendre et enlevait toutes les parties qui lui apparaissaient en blanc. Il ne restait plus qu'à ancrer et à appliquer les pages d'un livre, puis à relier. Ce procédé avait deux avantages qu'on oublie souvent. Il incluait dessins et illustrations qui ne furent insérés d'abord en Europe que par des additions en xylographie, et il permettait de reproduire à volonté ce qui avait été gravé sur des planches de 2 pages qu'on prenait soin de conserver en vue de nouveaux tirages. Matteo Ricci, fondateur de la première mission jésuite de Chine, note la rapidité relative du procédé à son époque. « Il me semble, écrit-il dans ses mémoires, achevées en 1609, que leur graveur grave d'une planche dans le même temps ou peu s'en faut que nos imprimeurs composent et corrigent une feuille. Mais on n'est pas parvenu du premier coup à ce résultat. L'impression au moyen d'un bloc unique semble avoir servi d'intermédiaire. C'est ainsi que fut reproduit le million de Dharani, formule magique du bouddhisme, ordonnée par l'impératrice japonaise Shiotoku en 1764, célèbre impression à laquelle Pellio a consacré une de ses notes. Ce n'était pas encore le livre fait d'une suite de 2 pages à coller. Pour que le livre apparaisse, il fallait qu'il répondît à des besoins nouveaux qui ne pouvaient avoir eu eux-mêmes d'autre origine que des transformations sociales. Le livre est apparu d'abord dans les régions les plus densément peuplées et les plus actives de la Chine, au Sichuan occidental et au sud du cours inférieur du Yangtze. C'était, dès le 8e siècle, 2 grandes zones de riziculture intensive à haut rendement, éloignées de 2000 km à vol d'oiseau, mais reliées par la grande artère commerçante du Yangtze et un de ses affluents au Sichuan. Le livre y a satisfait d'abord des besoins populaires, almanachs, calendriers, encyclopédies, manuels élémentaires de tout genre, texte courant du bouddhisme et du taoïsme. Dans ses notes, Pellio ne dit rien du papier, mais les techniques qu'il évoque, depuis le saut en relief jusqu'à la reproduction du livre, l'impliquaient nécessairement. Ces techniques ont exigé, en effet, 4 types de papier différents. Le plus courant pour l'impression du saut en relief, mais des papiers spéciaux pour l'estampage, pour la gravure sur planche et pour les pages de livres. Perfectionné sans cesse depuis ses premiers essais aux environs de notre ère, jusqu'au 7e siècle et bien au-delà, le papier a été fabriqué en Chine pour répondre aux besoins les plus divers, dans une grande variété de types et de qualités. Une simple remarque fera comprendre combien cette invention qui a eu tant d'importance pour l'histoire de notre humanité, en a eu aussi en Chine. Dans le premier et plus complet ouvrage sur l'imprimerie chinoise, son histoire occupe presque autant de pages que l'imprimerie. Une longue note de Pellio sur l'estampage et la reproduction d'autographes montre qu'il existait une contradiction entre le grand art chinois de l'écriture que les milieux cultivés n'ont cessé d'admirer et de pratiquer eux-mêmes, et le caractère stéréotypé de l'imprimerie, tant de caractères par colonne, tant de colonnes par page. Les grands calligraphes avaient d'abord besoin de liberté. Pellio n'a pas commenté ce que Carter avait écrit sur l'expansion vers l'Europe des procédés chinois de reproduction de l'écrit. Les historiens de l'imprimerie occidentale ont eu raison, à mon sens, d'estimer que l'invention de Gutenberg ne devait rien à la Chine, rien à la Chine. Le contexte social et intellectuel, l'histoire, les techniques même, celles des orfèvres, tout était différent. Alors que les premiers essais de Gutenberg ouvraient la voie à l'industrie du livre, les méthodes chinoises relevaient de l'artisanat. Si on peut dresser une carte de l'extension des techniques, c'est qu'elle figure parmi les traits de civilisation les mieux discernables. On comprend aussi que ces historiens aient parfois considéré avec condescendance la reproduction du livre en Chine, ignorant tout de la complexité de son histoire telle que l'a montré Pelliot et de la perfection à laquelle elle était parvenue, n'ayant aucune idée du nombre immense des livres publiés en Chine, ils l'assimilèrent plus ou moins à cet art rudimentaire qu'avait été chez nous la xylographie.
Je vous remercie.
Après la communication de Jacques Gernet, Paul Pelliot, sinologue et bibliographe, Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Michel Tardieu, professeur au Collège de France, intitulée « Les chrétiens d'Orient dans l'œuvre de Paul Pelliot ». Retrouvons Michel Tardieu en grande salle des séances.
Je vais reprendre bien des choses entendues durant ces deux jours, mais en essayant de les entremêler et ou de les resituer. Lorsqu'en 1911, Paul Pelliot est à 33 ans élu professeur au Collège de France, la définition de son champ disciplinaire en tant que chaire de langue, histoire et archéologie de l'Asie centrale répondait à une délimitation gagée sur ses explorations des routes et sites du Turkestan, comme on disait. Cet intitulé de chaire avait aussi pour raison d'être de bien différencier aux yeux de l'Assemblée du Collège de France le domaine de Pelliot de celui de la chaire des études proprement chinoises. Celle-ci, qui avait pour intitulé « Langues et littératures chinoises et tartare mandchoues », était occupée par Édouard Chavannes, qui avait été élu en 1893, alors qu'il avait 28 ans. Normalien et agrégé de philosophie, se situant à gauche par son engagement pacifiste et Dreyfusard, Chavannes avait, sur les conseils d'Henri Cordier, délaissé l'étude de la philosophie chinoise pour se consacrer à l'édition des mémoires historiques de l'Hérodote chinois Sima Qian. Cette édition eut un grand retentissement en Allemagne au début du XXe siècle et contribua au renouvellement des sciences humaines en servant d'instrument de travail à la réflexion de Max Weber pour construire son éthique économique des religions mondiales, 1915, et établir les bases sociologiques de l'État féodal et de l'État prébendier. Les questions conceptuelles et la méthodologie de leurs recherches étaient totalement étrangères à la culture et à la formation de Pelliot. Ce qui, dans les travaux de Chavannes, a été déterminant pour l'orientation des intérêts scientifiques de Pelliot devenu enseignant de ses propres recherches, fut le mémoire de Chavannes sur le nestorianisme mongol, 1897, ses études de turcologie chinoise publiées à Saint-Pétersbourg en 1903 et ses déchiffrements documentaires insérés dans Ancien Rotan d'Orelstein en 1907. L'inventaire des manuscrits ramenés de Dunhuang posait le problème de la rencontre des cultures et des religions en Asie centrale chinoise. Le lien entre cette bibliothèque pluraliste ou à côté de témoins des grandes religions chinoises figuraient des textes chrétiens et manichéens, et d'autre part, les chrétiens d'Orient, autodénomination des Nestoriens, qui rédigent en 781 l'inscription syro-chinoise de la stèle de Xi'an, reste la figure énigmatique de ce maître de la loi, Adam, non chinois Jingjing. Il s'agit bien d'un auteur chrétien, puisque c'est à lui que sont attribués le texte de l'inscription ainsi que l'hymne à la Sainte Trinité retrouvé par Pelliot dans la grotte aux manuscrits. Mais c'est aussi à la fois un auteur bouddhiste, puisqu'il collabore à la traduction chinoise d'un traité sur les six paramitas. La publication d'inédits manichéens chinois en collaboration avec Édouard Chavannes ira à son terme. En revanche, le travail sur le monument nestorien qu'il mènera seul, immédiatement après la publication du traité manichéen, d'abord en 1913-14, puis 1919-20, restera inachevé et non publié de son vivant. Pareillement, À la veille de la Première Guerre mondiale, Pelliot envisageait d'écrire un travail d'ensemble sur l'expansion de l'Église syro-orientale en Asie centrale et en Chine. Il formera, disait-il, deux, sinon trois volumes dans les publications de la mission Pelliot. Mais la mise au point même de ces volumes sera assez longue. Fin de citation. Trois décennies plus tard, autrement dit, un an avant sa mort, 1945, la synthèse annoncée n'a pas vu le jour. Et dans le même temps, de décembre 1943 à mars 1944, il consacre ce qui sera son dernier cours au Collège de France à la question du prêtre Jean. Ainsi, en dépit de l'apparente discontinuité que présente la masse des notes et comptes rendus publiés par lui ou ses éditeurs posthumes, on découvre une profonde cohérence dans l'objet de ses recherches. De l'étude des fondements historiques du christianisme en Extrême-Orient à celle d'une figure de légende liée à cette religion, figure protéiforme née dans le contexte de la Deuxième Croisade. Dans une note de bas de page de son commentaire à la stèle de Sian, note éditée par Antonino Forte, Pelliot déclare en effet « Sur l'adoration des rois mages dans les traditions des chrétiens orientaux, je compte revenir dans les chapitres relatifs au prêtre Jean. » Nous sommes là au cœur de l'œuvre de Pelliot. Cela répondait-il chez lui au besoin narcissique d'inscrire sa propre destinée d'explorateur et de savant dans la suite des découvreurs et voyageurs du passé, les grands missionnaires d'Orient, comme il disait? C'est probable. Les relations entre l'Europe, l'Asie centrale et la Chine, dans les temps modernes, commençaient pour lui au Moyen-Âge. Pelliot s'est donc fait médiéviste et a porté ses choix sur l'époque des croisades, plateforme idéale pour l'étude des rencontres et échanges qui ont lieu d'un bout à l'autre de la terre habitée et qui se cristallisent autour du personnage du prêtre Jean. Voyage de l'Est vers l'Ouest, comme les avait si brillamment étudié Chavannes, pèlerin bouddhiste de l'Inde du Nord-Est et des pays du Gandhara et d'Udhiana, ou bien encore voyageur chinois qui, jusqu'au XIIIe siècle, se rendait aux résidences des souverains des déserts occidentaux. Mais aussi itinéraire en sens inverse, de l'Ouest vers l'Est, dont les premières relations écrites parvenues jusqu'à nous, chef-d'œuvre de l'ethnographie médiévale, proviennent des frères franciscains partis comme missionnaires dans l'empire du prêtre Jean. Ce dernier personnage est sur tous les itinéraires que trace Pelliot pour ses publications à venir. La découverte des documents diplomatiques mongols du Vatican l'amène à rédiger un mémoire de 222 pages sur les Mongols et la papauté, qui sera publié par lui-même à partir de 1923 dans la Revue de l'Orient chrétien. Dans le second fascicule de ce même mémoire, il repose la question du prêtre Jean en abordant la notice de Barbroyo sur le christianisme des Kéraïtes. Lorsque paraît en 1929 le premier volume des Sinica Franciscana du père Van den Weingart, il commentera Jean de Plancarpin et Guillaume de Rubruck. Plusieurs années durant, il expliquera Marco Polo pour ses cours du collège. Le terme de ce travail d'exégèse sur les voyageurs dans l'Empire mongol aura été en 1944, en marge de son cours sur le prêtre Jean, l'analyse critique de la prophétie de Hanan, fils d'Isaac. Cette prophétie, ainsi qu'un texte similaire, les révélations de Pierre, sont des traditions apocalyptiques apocryphes qui circulent à Damiette et en Syrie vers 1220-1222. Pelliot les fait dériver des versions arabes, selon lui nestoriennes, ce qui ne me semble pas certain, de l'apocalypse du pseudo-méthode et des reconnaissances pseudo-clémentines. Elles annonçaient la venue imminente à Jérusalem du roi chrétien des Nubiens, autrement dit l'empereur d'Éthiopie, rejoint bientôt par un prince d'Occident. La nouveauté de ces pièces est de faire état au début du XIIIe siècle d'un déplacement du mythe du prêtre Jean de l'Asie vers l'Afrique. Aux yeux de Pelliot, l'étude de l'Église syro-orientale et des autres églises, la manichéenne y compris, n'était pas du savoir exact, mais selon son expression, la porte grande ouverte aux à peu près. Sa science philologique éblouissante fit une chasse continuelle aux à peu près. Il étaye les datations, localise toponymes et usages, rectifie les interprétations. Faire de l'histoire à propos de ces églises lui semblait chimérique. quant à leur doctrine spécifique pourtant si intéressante dans leurs adaptations aux particularismes socio-historiques régionaux, cela ne le préoccupa guère, pas plus que de savoir quel était le contenu de ces mots inducteurs de l'image que l'on se fait de l'autre, « Christiani desecta Nestorianorum »,« Christianus sed Nestorianus », ou encore « Ecclesia universalis », ou tout simplement « Christianitas ». Mettre au jour des chrétientés disparues, l'intéresser dans la mesure où ils pouvaient atteindre leur structure de pouvoir, démêler leurs traditions, reconstituer des carrières d'exception. Trois figures de l'Église orientale ont retenu particulièrement son attention. D'abord, Rabban Atta, ce moine nestorien qui, dans sa lettre au pape Innocent IV, s'autoproclame vicaire de l'Orient, venu du cœur de l'Orient, c'est-à-dire de la terre de Sine, « De pectore orientis licet de terra Sine ». Ensuite, ce personnage tragique, bien connu, que connaît fort bien Jean Gwanda, le prince Georges, petit-fils du prêtre Jean, de la tribu chrétienne des Ungutes. Le franciscain Jean de Monte Corvino le convertit au catholicisme, mais durant l'hiver 1298-99, le prince Georges sera assassiné par des ex-coreligionnaires nestoriens. Enfin, Ramban Sauma, Ungut, selon Pelio, plutôt qu'un Ouïghour, et qui était sacristain, Kankoyo, de la communauté nestorienne de Pékin. Devenu moine et ermite dans la montagne à proximité de Pékin, il voit venir à lui un compatriote du même âge, Marcos, désireux de s'initier auprès de lui à la vie religieuse. Les deux jeunes gens choisissent de mener le genre de vie de moines errants en prenant la direction symbolique de Jérusalem. Ils partent de Pékin vers les régions occidentales et par Khotan, Kashgar, Talas et les routes du Rorasan, ils atteignent l'Azerbaïdjan dans l'Iran du Nord-Ouest, où ils rencontrent le catholicos nestorien de passage à Maraga, sur la rive orientale du lac d'Urmia. Ils visitent les grands monastères et les lieux saints de la Mésopotamie du Nord, puis ils se rendent en Arménie et voient Ani. Puis ils entrent en Géorgie, mais doivent quitter le pays, est-il dit, à cause des meurtres et des pillages. Ils reviennent à Maraga, et de là atteignent Bagdad. Les métropolites nestoriens, réunis là en synode, pour trouver un successeur au catholicos Mardena, élisent et consacrent le 2 novembre 1281 l'un des deux jeunes gens venus de Chine, Marcos, qui de ce fait devient patriarche sous le nom de Maryab Allah III. Il installera sa résidence à Maraga, dans la capitale des Ilkhans mongols, de même culture que lui. Quant à Rabban Sauma, il poursuit sa route inlassablement, mais sainte foi en ambassadeur de son église et des Ilkhans. Il visite Constantinople et les grandes villes d'Europe, Rome, Paris, Bordeaux, de nouveau Rome, Cologne, Genève et encore Rome. Les pages de Pelio sur la relation syriaque de cette aventure sont parmi les plus belles de son œuvre. Dans ces marges de la sinologie, Pelio n'est pas isolé. Il les explore en collaboration avec le sinologue anglais A.C. Moule. Il reçoit aussi l'aide d'Eugène Tisserand, syriacisant devenu à 24 ans conservateur des manuscrits orientaux à la Bibliothèque Vaticane, puis préfet de la Congrégation des Rites et enfin cardinal. Dans les discussions sur les travaux d'autres collègues, Pelio a eu la dent dure, nous venons de l'entendre. Cette sévérité le fait passer, à tort, pour un érudit dédaigneux et un professeur sans élève. Les deux personnalités scientifiques qu'il admire par-dessus tout sont Marquardt et Bartholdt, la science philologique allemande et la science historique russe. Modèle absolu de la philologie critique comparative de son temps, Joseph Marquardt était une véritable tour de Babel, ou plutôt une pentecôte à l'étang permanent. Il pratiquait, dit-on, 68 ou 70 langues africaines, orientales et extrême-orientales. Mais ce qui impressionnait surtout le plus les contemporains était de le voir publier à intervalles réguliers d'épais mémoires de géographie historique du Caucase et de l'Orient, depuis les Sassanides jusqu'aux Mongols. Chaque ouvrage, muni de ses merveilleux index et notes de bas de page, que le loisir d'une érudition raffinée se plaît à empiler les uns sur les autres. Paul Pelliot empilait, certes, mais ne publiait pas à la mesure de ses notes de lecture. L'autre géant de cette époque, Vassili Barthold, représente la géographie historique de l'Asie centrale médiévale en perpétuel renouvellement par l'archéologie et les éditions des historiens persans. Son célèbre Turkestan, que Pelliot lit en russe dans la première décennie du XXe siècle, et ses travaux ultérieurs sur l'histoire du christianisme, ont été pour Pelliot une sorte de garde-fou. Le grand phénomène socio-culturel de l'Asie centrale à l'époque de la domination mongole a été le passage de l'islam en religion majoritaire des peuples turcs, et dans le même mouvement, l'adoption du persan comme langue de leur culture. La langue musulmane par excellence, dira Pelliot dans sa leçon inaugurale du 4 décembre 1911, donc la langue musulmane par excellence n'est pas l'arabe, mais le persan. Fin de citation. Pour Barthold, la disparition du christianisme dans ces mêmes régions était due non aux persécutions qu'auraient subies les chrétiens turcs, mais à l'interruption de leurs relations avec les pays de culture occidentale. Pelliot a admis ce point, sans suivre toutefois Barthold sur l'analyse qu'en tirait l'historien russe concernant l'universalité de l'islam, qui serait la seule religion mondiale à proprement parler, en ce sens que son extension ne se limiterait pas aux peuples d'une même origine ou d'une même culture. Barthold reformula ses vues au congrès de turcologie de Bakou de 1926, en saluant l'œuvre de Pelliot. Je cite, « Il ne suffit pas d'être turcologue pour étudier l'histoire des peuples turcs, il faut en plus être sinologue, iranisant ou arabisant. » Fin de citation. Marquardt et Barthold mourront la même année, 1930, et Pelliot écrira leur nécrologie dans le Tungpao. Des 14 leçons sur la légende du prêtre Jean, professées par Pelliot en 1944 au Collège de France, en conclusion de ses recherches sur les tribus mongoles à l'époque de Gengis Khan, 12 d'entre elles, sur fiches manuscrites, ont été identifiées par moi au musée Guimet en juin 2005, éparpillées dans les cartons du fonds Pelliot. Les fiches de ces cours sont écrites au dos de faire part de décès, de convocations à des réunions de sociétés savantes ou bien d'ordre du jour des séances de l'Académie des inscriptions. Elles sont toutes redatées avec précision de la main de Pelliot, et toutes ces dates renvoient au même jour de la semaine, le lundi, qui était le jour du cours de Pelliot au Collège de France. L'intérêt de toutes ces fiches est de permettre de contrôler la version orale des mêmes leçons conservée dans une sténodactylographie fautive du fonds Ambis du Collège de France et du coup de voir comment Pelliot préparait ses cours. L'inventaire des archives du fonds Pelliot du musée Guimet relative aux chrétiens d'Orient, que je donne en annexe de la présente communication, n'ont d'autre ambition que d'améliorer la lisibilité de la bibliographie de Pelliot en la situant dans le déroulement réel de son œuvre et par là peut-être aussi d'aider à apprécier cette œuvre comme l'un des regards transculturels les plus remarquables du XXe siècle. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre les communications de Jean-François Jarige, Paul Pelliot et le musée Guimet, celle de Jacques Gernet, Paul Pelliot, sinologue et bibliographe, et celle de Michel Tardieu, Les chrétiens d'Orient dans l'œuvre de Paul Pelliot, dans le cadre du colloque international Paul Pelliot, 1878-1945, de l'histoire à la légende, colloque organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et le Collège de France. C'était le 3 octobre 2008.